Direct en jeu, la radio insolite. Je devrais être très ému. Je suis. Parce que je suis avec un grand bonhomme. Alors, le grand bonhomme qui parle d'un autre grand bonhomme. Le grand bonhomme dont je parle, c'est Jean Ferrat. Mais alors, je suis avec. T'es un peu connu, toi, je crois.
Bonjour Alain, bonjour à vous tous. Maybe you can recognize my voice. En général, quand je dis ça, les gens reconnaissent assez vite.
Ils ont tous dit, oh non, pas lui, pitié.
Effectivement, je suis ici à Avignon pour un spectacle hommage à Jean Ferrat, qui est un artiste que j'ai profondément aimé, que ce soit l'homme ou l'œuvre, que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois, dont une fois de façon assez intime. Quant au reste des anecdotes, pour construire ce spectacle, elles m'ont été données par celui qui était extrêmement, extrêmement proche de lui, Michel Drucker, que tout le monde connaît, bien sûr. Et voilà, donc c'est un spectacle d'amour, c'est une causerie musicale où je parle de sa vie à travers ses principales chansons.
Alors, il y a un truc que je trouve extraordinaire, Nelson, c'est qu'au premier abord, tu es connu comme étant journaliste sportif. Qu'est-ce que tu fais dans la musique?
J'ai toujours eu une grande passion pour la musique, que ce soit la musique classique ou la musique. J'aime pas trop le terme de musique de variété, que je trouve un peu péjoratif. Enfin bon, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire pour des chanteurs français ou anglo-saxons de qualité. C'est pour ça que moi, je veux pas paraître trop nostalgique en disant ça, mais enfin bon. Pour moi, je sais pas, un artiste comme Georges Brassens, comme Jean Ferrat, comme Barbara, comme Chantranet, comme Gilbert Bécaud, comme Charles Aznavour, comme Georges Moustet, je peux t'en citer 20 et peut-être même plus, me donnaient et me donnent encore beaucoup de plaisir à les écouter et me donnent beaucoup plus de plaisir que beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui.
Alors, Jean Ferrat, ce n'est pas qu'un chanteur, c'est un homme. Il est un peu comme Brassens, il est un peu comme Barbara, c'est-à-dire il représentait plein de choses, plein de valeurs.
D'ailleurs, les deux exemples que vous citez sont très justes. Il s'entendait très bien avec eux. Il s'entendait également très bien avec Jacques Brel, avec Charles Trenet. Ces personnes-là représentent quand même, je dirais, un sommet de la chanson française. Non seulement de la poésie, mais également de la musique, de l'orchestration, des accompagnements. De tout ça, je parle dans mon spectacle. Je parle de la façon dont il est arrivé à la chanson. Je parle de la façon dont il a changé son nom, parce que Ferrat n'était pas son vrai nom. Il y a eu deux changements de nom. Je parle de ses années d'enfance et de jeunesse qui ont été extrêmement difficiles, vu qu'il était donc de confession israélite. Enfin, je parle de tout ça. Et voilà, ce que je disais, c'est que c'est un joli, j'espère, en tout cas joli, en tout cas c'est un spectacle d'amour.
Alors, il y a une question que je me suis posée, c'est avec toute la production musicale qu'il a eue, comment as-tu fait pour te limiter à un temps certain pour le spectacle?
Alors déjà, j'ai trois artistes avec lesquels je propose un spectacle que j'appelle encore une fois causerie musicale. Donc, je parle de leur vie à travers leurs principales chansons. Alors, ces artistes, excusez du peu, sont Georges Brassens, Charles Trenet et Jean Ferrat. Et je vois un point commun entre ces trois artistes, qui est une qualité de texte extraordinaire, de vrais poètes, mais pas seulement, mise en musique de manière absolument merveilleuse. Parce que les plus beaux poèmes du monde, j'en parle dans mon spectacle, Louis Aragon, que Ferrat a beaucoup mis en musique, les poèmes d'Aragon se vendaient, ça ce sont des chiffres assez précis, les poèmes d'Aragon se vendaient à peu près à 30 000 exemplaires. On ne vit pas de sa poésie, ni avant, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, ces poèmes se vendaient à 30 000 exemplaires. Quand Jean a commencé à mettre en musique ses poèmes, on est passé de 30 000 à 3 millions. Je dis bien 3 millions. Donc, évidemment, Louis Aragon, voyant ça, a dit, mais bien sûr, mettez en musique tous les poèmes que vous souhaiterez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, ce sont des artistes, pour moi, incomparables, inoxydables, inoubliables. Tout ça commence par IN, effectivement, et vraiment inégalables. Voilà, c'est le dernier IN que je cherchais.
Je vous rappelle que Direct en jeu a été partenaire du festival 22 La Jange à 7 avec l'association Cabrassin. C'est on y retourne évidemment en 2026. Et moi, quand je suis arrivé à 7, j'ai pas compris. On m'a dit non, mais Brassens, c'est pas un chanteur, c'est un poète.
Alors lui n'aurait pas aimé cette phrase parce que justement, il était très conscient de la valeur de ses musiques, en fait. D'ailleurs, il y a des images, il y a des vidéos où il compose, bien sûr, la guitare, mais également au piano. Et il était très attaché au fait que, quand on écoute certaines chansons, il y a quand même assez peu de chansons où il y a deux textes différents sur la même mélodie. Il n'y a pas l'amour heureux et la prière. Ce sont deux chansons différentes. Les textes sont différents, mais la musique est la même. Ce qui veut dire que la musique est une richesse infinie. Et c'est exactement le cas.
Alors, ce qui est assez original, nous, à Villeurbanne, c'est qu'on a notre organiste de la mairie de Villeurbanne, Frédéric Lamancien, qui joue, qui interprète des œuvres de Jean Ferrat. Et à côté, Véronique Estelle, qui était la fille de Jean Ferrat, comme on dit, lit les textes. Et ça sort un peu de l'ordinaire, parce que d'habitude, on a, entre guillemets, toujours de la musique chantée, alors que là, les deux sont différents. Tu as choisi, toi, de chanter directement ou de différencier les deux ?
Non, je chante. Je trouve que je chante. J'ai appris donc les paroles. Je n'aime pas trop les artistes qui chantent avec des textes devant, qui lisent les paroles. J'aime pas ça. Donc soit j'apprends par cœur de ce dont il s'agit, soit je m'abstiens. Donc voilà, dans ce spectacle hommage à Jean Ferrat, j'ai un guitariste avec moi, Hugo Kremaski, qui est un guitariste de grand talent. Lui, il fait supporting voice, c'est la deuxième voix. Moi, je fais la voix principale, mais je me sens capable de chanter, donc de parler de causerie musicale. C'est-à-dire je parle des principales étapes de sa vie et derrière, il y a des chansons. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant et de très, très riche chez Jean, c'est que il y a 6 chansons. Lui, il a écrit plus de 200 chansons. Donc, je peux faire le même spectacle avec 6 autres chansons ou avec 7 ou 8 autres chansons. Là, j'ai raccourci Saint-Pascal à Avignon. On est obligé de pas trop dépasser une heure. Donc, j'ai un peu raccourci le spectacle. Habituellement, ce spectacle en compte plutôt 8. Mais voilà, c'est bon. Par exemple, alors, j'ai essayé de faire un spectacle plus poétique que politique. J'ai voulu également faire un spectacle quand même assez gai, assez joyeux. Je veux pas que ce soit quelque chose comme que les gens sortent plombés avec Potemkin ou Nuit et brouillard, qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui pour moi ne se prêtent pas à l'ambiance du Festival d'Avignon à Forcerie à 17h35. Donc voilà, c'est un spectacle que j'ai pas mal modifié pour en faire un spectacle susceptible d'intéresser les Avignonnais. Parce qu'ici, c'est quand même un festival où il y a le sens de la fête et je ne veux pas les plomber avec des chansons trop, trop dures. Donc voilà, on sort avec C'est beau la vie, la montagne, la femme et l'avenir de l'homme, enfin voilà, aimer à perdre la raison. Il y a quand même des très, très belles, très, très belles choses.
Ouais, quelqu'un qui m'a posé une colle, qui m'a dit, mais avec toute la production musicale de Jean Ferrat, est-ce que c'est tous les soirs le même spectacle ou est-ce que tu donnes la possibilité de pouvoir changer parfois ?
Ça, c'est une très bonne question. C'est ce que te répondront tous les artistes, tous les acteurs de théâtre. C'est qu'ils vont te dire que le texte est sensiblement le même, mais le public, lui, n'est évidemment pas le même. À partir de là, et c'est vrai, c'est pas une banalité de dire, c'est vrai qu'une soirée ne ressemble jamais à une autre. Et surtout, un public ne ressemble pas à un autre. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que souvent, le public du Nord était extrêmement, avait énormément de chaleur, de ferveur, etc. Beaucoup d'artistes vont te dire ça. Donc, ça veut dire que je ne dis pas que le public du Sud en a moins, mais il faut quand même un peu plus les convaincre. Mais une fois que le public, quel que soit le public, même du Sud, est dedans, ben c'est merveilleux. Et puis moi, j'aime bien le fait de... Bon, par exemple, je pense à notre pièce Sapatine à Tokyo, où il y a des moments où on est applaudi dès qu'on arrive sur scène, d'autres où on ne l'est pas. Donc, si on ne l'est pas, on convainc le public, et souvent, quand on ne l'est pas au début, on l'est encore plus à la fin.
Sapatine à Tokyo, ça me dit quelque chose, ça.
Sapatine à Tokyo. Alors, Sapatine à Tokyo est une pièce très drôle, évidemment, avec Philippe Candeloro comme co-listier, une pièce co-écrite par un tandem de jeunes auteurs, Hervé Kremaski, Julien Grange, qui ont très très bien su capter nos personnalités. Cette pièce est produite par Philippe Delmas Organisation, et depuis maintenant près de 2 ans, nous tournons dans toute la France, et je dois dire que vraiment... Ça a l'air prétentieux de dire cela, mais le fait est que les salles sont pleines, y compris des salles assez grandes. Je pense notamment à Bordeaux, au théâtre féminin, avec 1000 places. Il faut quand même les remplir, quoi. Je veux dire, voilà. Théâtre de Longjumeau, en banlieue parisienne, avec voilà aussi 800-900 places. Alors notre jauge habituelle est plutôt autour de, on va dire 300-400. Mais vraiment, ce qui est déjà pas mal. Et on va après la rencontre du public, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ici. Pour parler avec les gens, et ça, je trouve que ça, comment dire, notre représentation, elle dure peut-être 1h15, mais notre soirée, elle dure facilement 2h, voire plus. Parce qu'on va à la rencontre des gens. Je sais qu'ici, à Avignon, c'est un peu plus difficile parce que les spectacles se succèdent et tout, mais enfin, voilà, je crois que les gens, je pense que tu seras d'accord avec moi, les gens vraiment souhaitent beaucoup rire en ce moment. Avec l'actualité journalière, ne leur donne pas tellement l'occasion. Et donc, nous, on leur propose de rire et j'espère de façon saine et joyeuse.
Alors, une question qui m'a fait rire, qui m'a été demandée par Isabelle, elle m'a dit, demande-lui si ça ne lui fait pas peur de monter sur scène. Je trouve ça génial comme question.
Ah ben, c'est-à-dire que moi, quand je lis les biographies, parce que donc, avant de faire ces spectacles, j'ai évidemment lu les biographies de ces grands artistes. D'ailleurs, j'ai publié une biographie de Jean Ferrat. Et je sais que les artistes, même les plus... comment dire, les plus réputés, les plus connus, ont effectivement le trac avant d'entrer sur scène. Alors quand le regretté Jacques Brel dit qu'il vomissait à chaque fois, ça je n'y crois pas. Je pense que c'est un petit peu exagéré, parce que bon, malgré tout. Mais d'avoir une petite appréhension, d'avoir une... que moi je rapproche du respect dû au public. C'est vrai qu'on n'arrive pas comme ça, coucou c'est moi, non. Donc oui, ça c'est normal, surtout quand on arrive, ce qui sera le cas donc à partir de samedi. Quand on arrive sur une scène pour la première fois, oui, c'est normal d'avoir un petit peu d'appréhension, mais ce n'est pas une appréhension paralysante, c'est une appréhension, au contraire, très motivante.
C'est le trac, comme disait Sarah Bernard ou Sacha Guitry. Quand on a du trac, c'est qu'on a du talent.
Je dirais pas jusque-là, ça serait...
Moi, je le dis haut et fort.
Talent, je ne sais pas, mais respect du public, oui, ça oui.
Ouais. Ça va être compliqué de jouer sa patinée à Tokyo ? Avec le nouveau président.
Alors c'est plutôt à lui, c'est une bonne question, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Moi, je sais ce qu'il m'a dit, je vois Joël, notre programmatrice, qui écoute avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement c'est une question très intéressante. Moi je sais ce qu'il m'a dit, il m'a dit que ça ne nuirait en aucune façon de son travail de président, qui d'ailleurs n'est pas un travail à plein temps. Les présidents de fédérations sportives ne sont pas des travails à plein temps. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus chargé que d'autres, notamment en hiver, etc. Mais je ne pense pas que ça nous empêchera de jouer la pièce. Au contraire, je pense qu'il sera même plus serein parce qu'il a trouvé chaussure à son pied, patin à son pied, et ça ne l'empêchera pas du tout de jouer. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ici, il vient d'être élu. Si vraiment ça avait été impossible, la passation de pouvoir a eu lieu aujourd'hui même. Si vraiment ça avait été impossible, il aurait dit, prétexté de me dire que je sais pas, que dimanche ou lundi. Mais non, je pense pas que ça, non. Je pense pas que ça influera.
Par contre, en ce qui te concerne, tu restes tout le festival. Par contre, ça patine Tokyo, ça reste la semaine.
Je pense que 2 semaines, c'est bien. Je pense que je sais à Avignon d'expérience que la dernière semaine est parfois un petit peu plus difficile. En plus, il se trouve que nous laissons la place à une jeune troupe dans les 2 cas. Donc, et ça me plaît bien. Et moi, 2 semaines, je trouve que c'est bien. Il va faire 40 degrés. Moi, non, enfin, franchement, ça me... Non, aujourd'hui, c'est parfait. Mais voilà.
Je tiens à préciser qu'il a déjà fait 40 degrés il y a 2 jours.
Je sais bien. Donc, voilà. Pour moi, c'est bien. Voilà.
Et après ? Donc, après Avignon, tu vas t'ennuyer, quoi ?
Peut-être un peu, parce qu'au fond, non, c'est vrai que quand on a goûté à ça, non, mais grâce à nos formidables programmatrices qui sont ici même, là, Joël Dupuis qu'on ne présente plus et Clara Wilkinson qu'on ne présente plus non plus, qui travaille avec le bras droit de Philippe Delmas, je pense que... Et puis nous-mêmes, je dois dire, Clara en est témoin, voilà, on se bat pas mal pour avoir d'autres dates et en général, je vais te faire une confidence, c'est très, très facile. Les maires des villes, pas les mamans, hein, voilà. Les maires, peut-être, les maires, elles viennent voir le spectacle. Mais comment, ils disent, ah, c'est formidable, etc. Ah, oui, on signe tout de suite. Mais dès qu'ils délèguent, oui, c'est ce qui se passe, la plupart du temps, ils délèguent à leur adjoint à la culture ou je ne sais quel, sous-attaché adjoint, ça met quand on est arrivé à Nice. Et là, ça devient plus compliqué. Mais enfin, voilà, je dirais que dans l'ensemble, nous sommes plutôt optimistes pour cet automne.
J'ai le droit de poser une dernière question ?
Bien sûr.
Je trouve que tu débrouilles bien au micro.
je débute. Je débute. Et donc, non, mais ça dépend aussi beaucoup. Non, mais là, je ne dis pas pour te faire plaisir, Alain, mais ça dépend aussi beaucoup de l'interlocuteur. Toi, tu es extrêmement souriant. Tu portes des chemises qui sont très jolies.
Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise ?
Très jolie. Moi, j'aime beaucoup ce genre de chemise. C'est un peu Surf in USA. C'est les Beach Boys. Oui, ils surfent, je vois ça. Donc, non, mais j'ai une personnalité agréable. Alors, de toute façon, je vais être sérieux une seconde. Moi, je sais, et j'en ai quand même fait pas mal, les interviews, que ce soit pour poser des questions, la plupart du temps, ou pour répondre à des questions. Je sais, dès le départ, si ça va bien ou moins bien se passer. Et là, je savais, quand je t'ai vu là, une manière... Et moi, je sais, moi, des athlètes, des sportifs, et pas n'importe lesquels, parce que j'ai vraiment accompagné le... Voilà, m'ont tout de suite dit que voilà, qu'avec vous, je sais pas, il y a une manière de se sentir bienvenu, une manière d'accueillir, une manière de, je sais pas, d'être souriant, d'être agréable. Ce fut le cas.
En tout cas, je voulais te remercier parce que certains auraient pu avoir la grosse tête. Toi, c'est pas le cas. Tu viens, tu n'hésites pas quand même à être simple, à être humble, et ça, c'est le plus important.
Voilà, alors j'espère que notre ami Candeloro, depuis qu'il est élu président, ne prendra pas trop le melon, puisque le Cavaillon n'est pas très loin. Donc, je lui transmettrai tes compliments. C'est trop tard pour moi de prendre la grosse tête. Si j'avais dû prendre la grosse tête, c'est marrant. Comme tout le monde, j'ai des défauts. C'est comme tout le monde, mais j'ai pas celui-là. J'ai jamais eu. Peut-être c'est dû au fait que je suis rentré à la télévision assez tard. Il y en a qui l'attaquent, qui veulent rentrer à 20, 22 ans. Moi, j'avais déjà 35 ans. Donc, j'étais d'ailleurs très heureux avant. Et je suis très heureux aujourd'hui. Donc, je n'ai jamais eu le symptôme ou les ravages de ce qui aurait pu être la grosse tête.
Ah bon, tu étais à la télé? Tu sais quoi, la télé?
Eh bien, je démarre je démarre une carrière de... De journaliste, c'est bien, j'aime bien c'est pas ce, tu vois, mais ça me plaît, ce passé futur qui va peut-être me valoir de suivre 18 Jeux Olympiques, 9 d'hiver et 9 d'été, et ça c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même, je sais pas si c'est un record, mais je pense qu'en France c'est pas loin d'être un record.
Un petit clin d'œil à toute l'équipe d'Albertville, puisque moi j'ai eu la chance de travailler en 92 sur Albertville. C'était un vrai souvenir merveilleux et tout. Je voulais te remercier, puis comme on dit dans le spectacle, toi.
Thank you. Merci.